Excusez-moi, j'avais pas entendu, j'avais entendu François. Donc, je dis, il se passe rien. Bien, bonjour à tous. Je salue tous ceux que j'ai pas vus au début du culte. Je les embrasse. Voilà, nous sommes de retour à Thonon-les-Bains. J'ai le devoir de vous transmettre les salutations d'une famille qui vient parfois ici, qui est dans la même église que nous à Grenoble et que nous avons croisé jeudi soir. Il s'agit de Christophe et Elisabeth Villon, je vois un déjà qui opine du chef, qui salue l'église. Voilà ce que je fais. Et aujourd'hui, on va continuer à explorer la première lettre à Timothée. Et les circonstances font qu'on arrive sur le chapitre 3. Alors, ce chapitre 3 traite principalement des anciens et des diacres. Donc, nous allons voir cela. Et puis, avant, on va prier. Père Céleste, nous te remercions pour ce début de culte que tu nous as donné, Seigneur, et nous voulons te dire que nous avons tous le désir, le souhait inscrit dans notre cœur de nous confier en toi. Chacun a son lot de difficultés pour certains, de décisions pour tous à prendre, de vie à construire, Seigneur, notamment pour les plus jeunes d'entre nous. Nous te prions vraiment pour que par ton Saint-Esprit tu guides chacun, que tu conduises ceux qui te recherchent. Et nous te remercions parce que nous avons cette assurance que tu n'es pas un Dieu lointain, mais tu es aussi simultanément un Dieu tout proche à qui nous pouvons nous confier comme à un Père. Nous te remercions en particulier pour ta parole que tu nous as laissée. Merci parce qu'elle nourrit nos âmes et elle nous permet aussi de marcher en connaissance de ta volonté, en tous les cas, en une meilleure connaissance de ta volonté. Nous te remercions et nous te prions pour que tu sois avec nous dans ces moments. Amen. Voilà, donc nous sommes au chapitre 3 de la première lettre à Timothée. Je ne résume pas les deux premiers chapitres parce que ce que nous allons voir est forme un tout en soi et relativement indépendant. Alors, nous parlons des responsables dans l'Église, d'une manière générale, et nous lisons d'abord dans le premier verset du chapitre 3. On dit, celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Alors, avant d'aller plus loin, deux remarques. La première, c'est que si on regarde diverses traductions, on se heurte à une difficulté de vocabulaire sur les termes employés, évêque, ancien, peut-être quelques autres comme surveillant. On trouve aussi, c'est le cas dans la traduction que j'ai lue, le terme dirigeant à la fois plus neutre et peut-être plus moderne. Et cette diversité de vocabulaire, eh bien, elle trouve son origine dans la traduction des mots grecs dont ils sont issus en français, et résulte aussi de la traduction juive, la tradition juive, en particulier pour le terme ancien, puisqu'il y avait des anciens dans l'Ancien Testament. Bon, les termes cités sont à peu près synonymes, même si les spécialistes voient des nuances entre certains d'entre eux. Alors, pour ma part, dans ce début-là, que nous allons découvrir, j'utiliserai le mot un peu par habitude d'ancien. Alors, la deuxième remarque, c'est que d'après le verset qu'on vient de lire, la tâche d'ancien est une belle tâche. Traduction Le Sommeur. La charge d'évêque est une œuvre excellente, d'après la traduction seconde que vous avez peut-être sous les yeux. Alors, cette appellation très positive sur la tâche d'ancien, sur la charge d'évêque, nous invite à considérer les responsables de notre Église avec amour et avec sérieux, en les soutenant dans la prière et dans les actions concrètes. Il leur arrive, je suppose, ici comme ailleurs, de demander explicitement l'aide et le soutien de l'Église dans des circonstances exceptionnelles. Je suis sûr que par pudeur, ils ne le font peut-être pas autant qu'ils le voudraient. Alors je dis qu'en réalité, il y a là un défi quotidien pour les membres d'une Église de soutenir et d'aider leurs responsables. Moi, je le dis avec une grande liberté, maintenant que j'ai demandé à être déchargé des responsabilités que j'avais auparavant, ce soutien est absolument nécessaire, cette aide est absolument nécessaire. Elle englobe aussi la famille des responsables, épouses et enfants. Alors, pour revenir au texte, à partir du verset 2, Paul va dresser une liste de conditions que l'ancien doit remplir ou de qualifications qu'il doit posséder lorsqu'il est question de le désigner comme tel et qu'il doit continuer à posséder de mieux en mieux probablement au cours du ministère d'ancien que le Seigneur lui a confié par le moyen de sa désignation par l'Église. Alors, je ne redirai pas à chaque fois que ces conditions et qualifications s'appliquent dans ces deux circonstances, au moment de sa désignation, puis tout au long de son ministère. J'avais ce qu'il faut. Il doit y avoir un sens. Bien, nous examinons justement maintenant ces conditions ou qualifications qui sont énumérées par Paul entre le verset 2 et le verset 9. Dans ce passage, il est question donc d'anciens et dans ce passage, il est question d'hommes. Verset 2. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle, sobre, réfléchi, vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable et pacifique, que l'amour de l'argent n'ait sur lui aucune prise, qu'il assume bien ses responsabilités de chef de famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Car comment un homme qui n'assume pas correctement ses responsabilités de chef de famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu ? Que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur qu'il ne se laisse aveugler par l'orgueil et tombe sous la même condamnation que le diable. Enfin, il doit jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. Ces conditions et qualifications, bon, elles ont le bon goût de se laisser classer en catégories. Donc je vais m'appuyer là-dessus pour ne pas revenir sur chacun des termes que vous avez rencontrés, d'autant plus que certains sont extrêmement clairs. Il y a d'abord des choses faciles, ce que l'ancien ne doit pas être. Il ne doit pas être buveur, il ne doit pas être querelleur, l'amour de l'argent ne doit pas avoir de prise sur lui, il ne doit pas être un converti de fraîche date. Alors, si les trois premières conditions tombent sous le sens, eh bien, Paul éprouve le besoin d'argumenter au sujet de la quatrième, de la dernière. Paul craint qu'un nouveau converti se laisse, d'après le texte, aveuglé par l'orgueil et tombe sous la même condamnation que le diable. Ne pas désigner un jeune converti comme ancien, ça constitue une sage précaution. Même si une conversion déjà ancienne n'est pas une garantie contre l'orgueil. Et inversement, il ne faudrait pas invoquer cette précaution, même si elle est marquée par la sagesse, pour retarder à l'excès la désignation comme ancien d'un frère que le Seigneur aurait visiblement doué pour cette tâche. Donc, la règle générale, c'est que ce ne doit pas être un nouveau converti. Mais il y a d'anciens convertis qui tombent dans l'orgueil, pareil. Ancien ou pas ancien. Et il ne faudrait pas non plus freiner à l'excès la désignation d'une personne plus jeune que le Seigneur aurait visiblement doué pour cela. Alors, ce qu'il doit être, dans le positif cette fois, il doit être, oui, je suis sur la bonne diapo, irréprochable, on y reviendra, sobre, réfléchi, il doit vivre de manière convenable, il doit être hospitalier, capable d'enseigner, on y reviendra, aimable et pacifique. Bon, je ne reprends pas tous les termes, je m'arrête sur deux d'entre eux. D'abord, et au premier rang de la liste, il doit être irréprochable. Bing. Il n'est pas dit qu'il doit être parfait. Si c'était le cas, comme nul n'est parfait dans sa conduite, les églises n'arriveraient jamais à trouver des candidats recevables pour l'anciennat. Il doit être irréprochable, ça veut dire que sa conduite ne doit pas susciter de reproches de la part de l'Église, de la part de son entourage familial, et même, on va le voir, de son entourage professionnel, séculier. Alors, Alfred Kuhn, dans son livre « Le responsable », écrit à la page 53, ce mot « irréprochable » ne doit pas être pris dans son sens absolu d'irréprochable devant Dieu, car alors on ne nommera jamais de responsable. Il signifie plutôt que sur les différents points énumérés, on n'est pas de reproche positif à faire au candidat responsable. Ensuite, à la fin du verset 2, il doit être capable d'enseigner. Alors, dans Tite 1,9, qui est un passage parallèle à celui qu'on a lu, Paul est un peu plus explicite. Il dit qu'il soit fidèlement attaché à la parole certaine, qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. Ainsi, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement véritable et de réfuter les contradicteurs. La version second parle d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Et dans ce cadre, l'ancien peut être amené à dire la doctrine. Et en disant la doctrine, il tranche avec autorité, notamment en présence de faux enseignements, ce qui était le cas, on le rappelle dans le chapitre 1, pour l'église d'Éphèse. Alors cette capacité à enseigner n'est pas attendue des diacres, dont il sera question un peu plus loin. Alors, il reste maintenant trois conditions importantes à examiner. Paul les détaille un peu plus. C'est l'ancien comme époux, l'ancien comme chef de famille, et l'ancien comme, je ne sais pas trop comment dire, je dirais comme citoyen. Et il replace toutes les trois, l'ancien, dans son environnement humain, trois cercles concentriques. Alors, l'environnement comme époux. Il doit être mari fidèle. Dans d'autres traductions, mari d'une seule femme. Bon, cette formulation, mari d'une seule femme, a été discutée et interprétée différemment selon les époques et selon les lieux. Et selon Alfred Kuhn, toujours à la page 50 du même livre, lui, il dit l'expression mari fidèle, c'est celle vers laquelle penchent la plupart des commentateurs. À titre personnel, il dit « mari fidèle extérieurement et intérieurement ». Qu'est-ce que c'est ça? C'est moi qui commente l'expression. Je pense que ça veut dire « fidèle dans ses actes et fidèle dans ses pensées ». Et alors, plutôt que de commenter dans le détail les autres interprétations que je ne cite d'ailleurs pas, faute de temps, Alfred Kuhn, par contre, insiste assez largement sur le rôle direct ou indirect de l'épouse de l'ancien dans le ministère de l'ancien. Et il écrit notamment « Bien des conducteurs ont dû renoncer à leur travail, travail d'ancien, hein, à cause de tensions dans leur couple. Si la femme n'a pas accepté l'engagement de son mari et ne le soutient pas de ses prières et de son aide, prières et aide, hein, vous rappelez au début, il lui sera très difficile de faire face à toutes les obligations et à toutes les pressions de son ministère. L'ancien, comme chef de famille, il doit, d'après les traductions, assumer correctement ses responsabilités de chef de famille. Et la raison est donnée sous forme d'une question. Il est dit dans ma traduction, comment un homme qui n'assume pas correctement ses responsabilités de chef de famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu? Alors la réponse à cette question n'est pas donnée. Elle n'est pas donnée parce qu'elle est évidente. Il est impossible à un homme qui n'assume pas correctement ses responsabilités de chef de famille de prendre soin de l'Église de Dieu. La réponse est évidente parce qu'elle elle repose sur un présupposé, et ce présupposé, que je crois partagé, c'est qu'il est encore plus difficile de prendre soin de l'Église de Dieu que de prendre soin d'une famille. Alors, pour en terminer, parce que Paul détaille assez longuement, Paul porte notre attention sur les enfants de l'ancien. Ils doivent être maintenus dans l'obéissance en toute dignité. Dans, chez second, maintenus dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Cela veut-il dire, comme moi j'ai rencontré ce cas dans ma jeunesse, hein, dans une église que je fréquentais, que les enfants de l'ancien doivent être, selon l'expression habituelle, convertis au Seigneur? Je ne le crois pas. On peut imaginer, je l'ai rencontré ça, qu'un frère se considère comme disqualifié pour l'ancienneté parce que l'un de ses enfants ne marchait pas avec le Seigneur. C'était son opinion. Mais je crois qu'on ne peut pas lui opposer l'attitude de cet enfant qui refuserait le salut en Jésus-Christ, provisoirement peut-être d'ailleurs, dès lors que sa conduite, la conduite de l'enfant, montre obéissance, dignité, soumission et honnêteté. Alors l'ancien ensuite comme citoyen, je ne savais pas bien quel mot donner. Hein. L'ancien doit jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu. Je crois qu'il y a une traduction qui dit « on doit rendre de lui un bon témoignage ». Afin de ne pas s'exposer au mépris public, je reprends ma lecture, et de ne pas tomber dans les pièges du diable. Il me semble que d'une certaine façon, l'ancien représente l'Église, enfin quand je dis l'ancien, c'est les anciens, mais je parle d'un ancien générique, représente l'Église auprès de personnes extérieures et notamment auprès des autorités. Et je pense que si sa réputation est compromise à un certain moment de sa vie, la réputation de l'Église et donc de chacun de ses membres s'en trouve aussi compromise, y compris si cette réputation a été compromise avant même qu'on se pose la question de le désigner comme ancien. Alfred Kuhn ajoute toujours dans le même livre à la page 49, en parlant d'un frère qui aurait été lié à un scandale public, il écrit « Il a pu s'en repentir devant Dieu et devant l'Église et être pardonné devant les deux. Mais le monde extérieur n'a pas les mêmes normes pour lui, pour le monde extérieur qui a bu boira. Et qui a été malhonnête dans une affaire, le sera aussi dans une autre. La réputation d'une église et celle de ses membres sont liées. » Alors après avoir traité des anciens, Paul va maintenant traiter d'une autre catégorie de responsables, parfois nommés, ça sera le cas dans ma traduction, les assistants, au sens des assistants des anciens, et souvent nommés les diacres. Alors pour ma part, par habitude, j'utiliserai le plus souvent le terme diacre. Je n'entrerai d'ailleurs pas dans les appellations diverses qui sont parfois en usage. Dans certaines églises, on parle de conseiller. Dans d'autres, on parle de responsable de secteur. Il peut y avoir d'ailleurs d'autres appellations que je n'ai pas à l'esprit. Alors ces personnes correspondent en général, totalement ou à peu près, au diacre. Bref, moi, je m'en tiendrai au terme de diacre. Alors, que dit 1 Timothée 3? Eh bien, au verset 8, on peut lire « Il en va de même » on vient de parler des anciens « et il en va de même pour leurs assistants. Ils doivent inspirer le respect, qu'ils soient des hommes de parole, sans penchant pour la boisson, ni pour le gars malhonnête, ils doivent garder une bonne conscience, avec une bonne conscience, la vérité renouvelée de la foi, ils devront eux aussi être d'abord mis à l'épreuve, ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils exerceront leur tâche d'assistant, il en va, verset 11, on le traitera à part, il en va de même pour les femmes qui sont assistantes. Vous avez peut-être autre chose sous les yeux. Elles doivent inspirer le respect, qu'elle ne soit pas médisante, qu'elle soit sobre et digne de confiance dans tous les domaines. Les assistants, on y revient, doivent être des maris fidèles, bien assumer leurs responsabilités à l'égard de leurs enfants et de leur famille, car ceux qui remplissent bien leur ministère acquièrent une situation respectée et une assurance dans la foi en Jésus-Christ. Alors, une première observation s'impose. Dans ces 6 versets, Paul nous parle des diacres dans les 3 premiers versets, puis curieusement de femmes dans le verset suivant, et à nouveau des diacres dans les 2 derniers versets. Alors je vous propose de laisser provisoirement de côté, quelques minutes, le verset 11 qui parle des femmes, et de se concentrer dans un premier temps sur les 5 autres versets qui nous parlent des diacres. Dans ce texte, et dans ces 5 versets seulement, les diacres sont des hommes. Alors, la deuxième observation qui saute aux yeux, c'est que même si c'est dit différemment, les conditions et les qualifications qui concernent le diacre, les diacres sont de même nature et assez semblables à celles qui concernent les anciens. Ce n'est pas orthogonal. Toutefois, à 2 endroits, on observe une différenciation entre l'anciennat et le diaconat. Il me semble qu'il y en a 2 que l'on voit. D'abord, on a dit, et cela se confirme ici, que la capacité à enseigner n'est pas requise pour les diacres alors qu'elle est requise pour les anciens. Dans le texte, c'est comme ça, ici. Ensuite, on peut observer, c'est un peu curieux, qu'il n'est pas demandé explicitement aux diacres de jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu. Or, on l'a détaillé, c'est vrai pour les anciens. Alors, cela ne veut pas dire, évidemment, que la réputation des diacres n'a aucune importance. Il me semble simplement que, contrairement aux anciens, les diacres n'ont pas la fonction de représenter l'Église auprès des personnes des extérieurs et en particulier des autorités. Cette fonction me semble réservée davantage ou relevée davantage des anciens, et c'est pour cette raison qu'on demande aux anciens d'avoir un bon témoignage des gens de l'extérieur. Parce que ils sont en contact avec eux continuellement. Alors, voilà pour les conditions et les qualifications requises. Une troisième observation, c'est que le verset 10, je le résume, indique clairement pour les diacres la nécessité d'être mis à l'épreuve pendant une période probatoire avant qu'ils n'exercent leur ministère de diacre. Alors, nous n'avons rien vu de semblable pour les anciens. Mais certaines traductions, comme celle que j'ai lue, précisent que les diacres doivent eux aussi, être mis à l'épreuve. On peut penser que si Paul éprouve le besoin d'écrire eux aussi, c'est qu'une période de mise à l'épreuve est pareillement nécessaire avant de désigner un ancien. Et en tout cas, c'est une pratique sage que de prévoir cette période de mise à l'épreuve pour les anciens aussi. Alors, il reste maintenant à examiner le verset 11, qui se trouve inséré entre 3 versets et 2 versets qui sont consacrés aux diacres. Verset 11, je le relis, vous n'avez pas tout à fait peut-être la même chose au début du verset, je l'ai dit. Il en va de même pour les femmes qui sont assistantes, et assistantes dans ma traduction, c'est diacre. Hein. Elles doivent inspirer le respect, qu'elles ne soient pas médisantes, qu'elles soient sobres, dignes de confiance dans tous les domaines. Qui sont ces femmes dont il est question dans ce verset? Ces femmes qui doivent inspirer le respect, ne pas être médisantes, être sobres, dignes de confiance dans tous les domaines. Les commentateurs à cette question ont apporté 3 réponses. Première, qu'on dégage rapidement, il y a ceux qui pensent que ce sont les femmes en général. Bon, cette position est très minoritaire. Si le texte parlait de femmes en général, on pourrait se demander, à juste titre, pourquoi Paul a placé un verset relatif aux femmes en général à l'intérieur d'un paragraphe qui traite des diacres avant et après. Donc, il faut chercher ailleurs. Il y a 2 autres réponses qui ont, elles, toutes les 2 un rapport avec les diacres. Certains pensent que le verset 11 concerne les épouses des diacres. D'autres pensent, c'est le cas dans ce que je vous ai lu, que cela concerne des femmes diacres, c'est-à-dire des femmes qui exercent le ministère de diacre. Donc, c'est ce que j'ai lu il y a quelques instants. Alors, j'ai pas mal lu sur ce sujet, et j'ai vu que chacune des deux réponses, femme des diacres ou femme-diacre, possédait des points forts et des points faibles. Alors, je ne résume pas l'argumentation assez longue des uns et des autres, et là encore, faute de temps. Et dans, je suis allé voir, dans l'encyclopédie des difficultés bibliques, à la page 621, j'ai lu en particulier Alfred Kuhn qui écrit que la plupart des auteurs optent pour les femmes diacres et non pas pour les épouses des diacres. Et dans le Nouveau Testament, on voit effectivement une femme diacre qui est mentionnée. Elle se nomme Phoebé. C'est la première personne que Paul salue dans le 16e chapitre des Romains. Facile à retrouver. Romains 16, il y a une kyrielle d'une vingtaine de personnes que Paul salue. La première, c'est Phoebé. Et la traduction du Sommeur dit qu'elle exerçait son ministère dans l'église de Sancré. Sancré, c'est une petite ville qui existe toujours. On y est allé un jour avec Laurence. C'est l'un des deux ports de Corinthe. Et la traduction seconde, elle précise qu'elle y était diaconesse. Alors, j'ai lu que le mot n'existait pas à l'époque, hein, mais second traduit vraiment par diaconesse, par femme diacre. Alors, je vous propose trois remarques maintenant en guise de bilan. J'ose pas appeler ça de conclusion, parce que vous verrez que, justement, c'est pas une conclusion. La première remarque, c'est que 1 Timothée 3 ne fait qu'effleurer le thème des responsables. On se penche sur 1 Timothée 3 parce que notre lecture cursive de 1 Timothée nous amène au troisième chapitre ce matin. Mais ce thème est abordé à d'autres endroits. D'abord à un endroit bien particulier que j'ai cité, Tite 1, versets 5 à 9, mais aussi de manière plus sporadique, hein, comme des îles isolées, à différents autres endroits du Nouveau Testament. Alors, au passage, je note que la liste de Tite 1, si vous la lisez, est plus courte que celle de 1 Timothée 3, mais vous remarquerez qu'au vocabulaire près, la liste de Tite 1 est incluse dans la liste de 1 Timothée 3. Autrement dit, Tite 1 ne donne pas de choses renversantes qui ne seraient pas dans 1 Timothée 3. Alors, une autre façon de comprendre que le thème des responsables dans l'Église n'a été qu'effleuré consiste à remarquer que dans 1 Timothée 3, on ne parle pas du tout des fonctions des responsables anciens et diacres, ce qu'ils font. Et pourtant, les fonctions sont étroitement liées aux qualifications. Les qualifications n'ont de sens qu'en regard des fonctions. Simplement, les fonctions, elles doivent être cherchées ailleurs que dans 1 Timothée 3. Une autre façon de comprendre que le thème des responsables dans l'Église n'a été qu'effleuré, ça consiste à réaliser que le champ de qualification des responsables est plus large que ce que dit 1 Timothée 3. Les qualifications des responsables sont certes spirituelles, on en parle ici, sont certes morales, on en parle un peu ici, mais elles sont aussi, je dirais, humaines et pratiques. 1 Timothée 3 n'aborde pas l'ensemble de ces aspects. Alors, pour ne citer qu'un seul exemple, la capacité à travailler en équipe, c'est une qualification qui est primordiale pour un responsable d'église, ancien ou diacre d'ailleurs. Elle ne se trouve pas directement dans 1 Timothée 3. Donc, on a simplement soulevé le voile. Alors, vous avez peut-être observé d'ailleurs que 1 Timothée 3 et Tite 1 sont presque muets sur la possibilité de désigner des femmes comme responsables d'église. Tite 1 n'en dit rien. 1 Timothée 3 ouvre la possibilité de désigner des femmes comme diacres, mais ne dit rien sur celle de désigner des femmes comme anciens. Alors bref, le passage du jour, donc, il ne fait que soulever un petit coin du voile. Deuxième remarque. Même si le texte du jour ne fait qu'effleurer le thème des responsables dans l'Église, on ne peut qu'observer la densité de ce texte. Moi, quand j'avais 20 ans, quand j'ai découvert ce texte, j'étais frappé par cela. Constater aussi la difficulté qu'il y aurait à posséder toutes les qualifications qui sont énumérées. Alors ma deuxième remarque consiste à dire qu'il ne faudrait pas que cette difficulté débouche sur le découragement, notamment pour les plus jeunes dans l'Église. Dans son livre « Le responsable », à la page 68, Alfred Kuhn écrit « Ce qui est rassurant, pour ceux qui risqueraient de se décourager devant l'énumération de toutes ces qualifications, c'est qu'elles peuvent toutes se développer. » Il cite ensuite un autre commentateur, qui lui va d'ailleurs franchement plus loin, et qui écrit « Si nous revoyons la vie des leaders telle qu'elle nous est racontée dans la Bible, nous constatons qu'aucun d'eux n'était parfait, et n'avait toutes les compétences nécessaires d'emblée, dès le départ. » Ce commentateur écrit ensuite que beaucoup d'entre eux ont failli de manière notable à un moment donné de leur vie, mais qu'ils se sont laissés instruire par leurs fautes, se sont repentis et ont été utilisés ensuite mieux qu'auparavant. La troisième remarque, c'est un « en même temps », comme dirait notre président. Le texte du jour, il énonce des conditions, des qualifications qui sont élevées. Il pourrait être compris, on l'a dit, mais ça serait à tort, comme décourageant. Et simultanément, en même temps, il peut être lu comme concernant chacun d'entre nous, responsable ou pas. D'abord, pour une raison évidente et simple, les responsables de l'Église sont désignés, c'est une évidence, parmi les membres de l'Église. Donc, en ce sens, tout membre de l'Église, c'est un responsable en devenir. Ou peut-être un responsable en devenir. Et puis ensuite, ce texte peut être lu comme concernant chacun d'entre nous, indépendamment de toute désignation de responsable dans l'Église. Ce n'est pas le seul endroit où la parole de Dieu a des exigences élevées. Je vous en lis une. Romains 3, 12, le début de Romains 12, les deux premiers versets. Dans ce passage, Paul écrit « Je vous invite donc, frères, » il dit frères, vous êtes probablement frères et sœurs, « à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, plaît à Dieu, ce qui est parfait. » Alors vous avez noté, comme moi, la progression, hein, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui plaît à Dieu, ce qui est parfait. Et si vous lisez Romains 12 tout entier, je vous y invite, vous verrez que ça a un certain rapport avec ce qu'on a dit ce matin. Vous verrez que Paul, d'abord, exhorte chacun à l'exercice des dons qu'il a reçus. Exhorte ensuite chacun à de bonnes relations à l'intérieur de l'Église. Exhorte ensuite chacun dans ses relations avec ceux du dehors. Donc là, vous devez reconnaître ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ce programme, il est à la fois pratique et élevé. Et en ce sens, il nous concerne tous, et pas seulement les responsables, et pas seulement les responsables en devenir. Amen. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole, parce que ta parole est bonne pour nous. Seigneur, nous savons et nous avons rappelé ce matin que tes exigences sont grandes, mais nous savons aussi que c'est par toi que nous pouvons avancer, te remettre notre parcours jour après jour, comme cela a été rappelé au début du culte, Seigneur. nous voulons te remettre nos vies, nous voulons te remettre nos décisions, nous voulons te remettre notre chemin sur le sentier que tu places devant nous et te prions de nous conduire, de nous amener à des progrès dans notre vie intérieure, dans notre vie relationnelle à l'intérieur de l'Église, dans notre vie relationnelle à l'extérieur de l'Église. Nous te confions tout cela, notre Dieu, et nous voulons te dire avec confiance, merci pour ce que tu fais pour nous. Amen.